Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole à des gens que je rencontre sur mon chemin, en France, à l'international. Et Regarde ailleurs, cette notion d'élargir sa vision, d'élargir son regard sur le monde à travers des expériences, des parcours de vie. Et donc dans cette interview, dans cette émission, ce sera Pauline qui va prendre la parole. Pauline Wald. Donc Pauline, comme je le disais juste avant, ça fait maintenant, je pense, presque 7-8 ans peut-être que je te connais. Et que je suis tout ça, et donc aujourd'hui on se retrouve quelque part dans notre Alsace natale. Donc pour cette interview, on se retrouve dans les vignobles alsaciens, et on va parler un peu de cet itinéraire qui est le tien. Donc je vais revenir peut-être à la genèse, hein, quand on prend ton bouquin ou quand on prend ton DVD, ce qu'on lit derrière, c'est Pauline, à l'aube de ses 30 ans, a fait le choix de... Voilà, donc Pauline, parle-moi de Pauline avant les 30 ans, et quel choix tu as fait à cette époque-là de ta vie ?
Bonjour Alexandre, c'est avec plaisir qu'on se retrouve ici. D'ailleurs c'est marrant parce que les vignes, ça me fait penser à ce chemin que j'ai démarré ici, en Alsace. Alors, avant 30 ans, moi j'ai commencé à travailler très rapidement après avoir fait une école de commerce dans le secteur bancaire. Et je suivais sans réfléchir en fait ce qu'on me disait de faire. J'avais un travail où en fait j'étais pas passionnée par ce travail, mais ça gagnait bien. Et donc, je répondais aux objectifs d'une grande entreprise, en fait. Donc j'étais beaucoup devant des documents Excel. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, mais je ne pensais pas qu'autre chose était possible. Et un jour, j'étais en train de frôler le burn-out, j'en commençais à en avoir ras-le-bol. Je me suis levée un matin avec cette question du sens, en fait, qui m'a rattrapée, en me disant, c'est quoi le sens de tout ça ? Ça a pris un certain temps avant que je me dise que je quitte définitivement mon travail, parce que justement au niveau de... J'avais beaucoup de peur liée à la sécurité financière notamment. Et à un moment, en fait, j'ai senti qu'il était temps de partir. Et j'aimais cette idée de prendre un sac à dos et de marcher de la maison où j'ai grandi, en fait, en Alsace, sans trop savoir où ça me mènera.
Donc on parlera de cette marche qui au final va nous mener jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en partant donc de l'Alsace, donc cette marche qui a aussi donné naissance à un film et un livre. Mais je reviens sur cette notion de sens, cette quête de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui on observe ça énormément autour de nous, de plus en plus de gens veulent remettre le sens dans leur vie. Est-ce que tu observes ça aussi et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on attend aussi longtemps avant de remettre du sens dans sa vie?
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que le système éducatif est pas forcément fait pour nous rendre... J'ai l'impression qu'en fait, on est tous pris dans un système dès l'enfance, en fait. On nous vend une sorte de modèle qui est de, voilà, d'être bon à l'école, de trouver un travail dans une entreprise, voilà, aussi de se marier, de faire des enfants. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais enfant. Et il n'y a pas beaucoup de place au questionnement et puis à la connaissance de soi et à l'épanouissement. À l'école, on ne nous apprend pas à quoi faire de nos émotions, on ne nous apprend pas à nous poser des questions sur qui sommes-nous, qui suis-je ici sur Terre. Il n'y a pas du tout de place à la spiritualité. Parce qu'en fait, pour moi, cette question du sens, elle est intimement liée à la question de une question plus globale qui est qui sommes-nous et quel est le sens de la vie en général, au-delà de quel est le sens de ma propre vie à moi. Et moi, ce que j'ai senti, c'est que j'étais prise dans un engrenage dès mon plus jeune âge, hein, dès le moment où je savais écrire et où avoir des bonnes notes, ça me permettait d'être bien vue par mes parents, par la société. Et puis on me faisait comprendre que être bonne à l'école, ça permettait de faire de bonnes études et donc d'avoir un bon travail et donc d'être intégrée socialement, valide et donc heureuse. Donc pour moi, il y a un problème dès le début dans ce système et c'est pas facile de s'en extraire. Aussi parce que quand on commence à se poser des questions sur le sens, il y a plus de GPS clair sur comment mener sa vie et où aller. Il faut se créer son propre GPS intérieur. Et c'est super difficile parce que bon, moi j'ai suivi pendant longtemps en fait ce qu'on me disait de faire, donc en fait on connaît l'étape suivante, on sait que voilà, on gravit, c'est pas forcément facile, mais je veux dire c'est confortable au niveau de, parce qu'on a sa place, etc. Quand on se dit moi, à partir du moment où je me suis posé la question du sens de mon travail, je me suis rendu compte que, parce que moi j'avais un travail dans le secteur bancaire où je remplissais des docs Excel pour contrôler la productivité, c'était ça mon travail. Ça a du sens quand on regarde du point de vue de... C'est un métier qui avait sa raison d'être, mais moi, ça manquait un peu de sens pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que ça sert en fait ? Qui est-ce que ça sert, ce que je fais ? Et je sentais que j'avais envie que ce que je fasse au quotidien serve d'autres valeurs, notamment l'humain, l'écologie aussi, c'était important pour moi à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai commencé à me poser cette question du sens, je me suis sentie perdue pendant pas mal de temps.
Tu parles du sens et j'ai envie de dire qu'effectivement on peut trouver un sens à tout, mais aussi cette notion de bon sens. Donc est-ce que remplir un tableau Excel, ok, il y a certainement du sens pour certaines personnes, mais est-ce que c'est du bon sens ? Est-ce que c'est du bon sens que de balancer des pesticides dans nos champs ? Il y a sûrement un sens à ça, mais est-ce que c'est du bon sens ? Donc c'est vraiment cette notion de cohérence et peut-être même de conscience qui nous permet aussi, tu parles de boussole intérieure, hein, de trouver ce qui est juste.
C'est exactement ça. En fait, moi, je sentais que mon énergie, mon temps pouvait être utilisé de façon plus optimale et plus servir à autre chose qui faisait plus sens pour moi. Donc, tu parles de bon sens, en fait. C'est ça, c'est quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de servir avec et où mon énergie est la mieux employée. Qu'est-ce qui est important pour moi ? À ce moment-là, pour moi, c'était pas... Mon travail, en tout cas dans la productivité, c'était pas super important pour moi. Même le secteur bancaire, j'y suis allée en grande partie parce que ça rapportait pas mal d'argent. Ça a été une expérience. Je pense qu'on a besoin d'expérimenter pour se rendre compte de ce qui est important pour nous. Donc ouais, cette question du sens, ça c'est une vraie question.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Autre chose que j'entends quand tu me parlais, donc voilà, tu savais déjà ce que tu allais être et devenir parce que quelque part ton environnement social l'avait décidé pour toi. Il y a cette volonté d'adaptation, voire des fois de suradaptation à un système ou à cette pression hein, qui peut être sociale. Et on se rend compte que souvent c'est aussi peut-être une manière d'être connu, d'être aimé. On cherche souvent l'amour à l'extérieur de soi.
Totalement. Si on creuse profondément, je pense que la plupart des êtres humains ici font des choses pour être aimés. Et c'est pas grave de faire des choses pour être aimé, c'est juste que la vraie question c'est est-ce qu'on aime ce qu'on fait ? Si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait aussi accessoirement, on aime bien quand on est aimé en conséquence parce que les gens nous disent c'est bien ce que t'as fait, t'es une bonne personne, c'est magnifique, etc. Ça booste l'ego. Mais si c'est une conséquence naturelle de quelque chose qu'on aime déjà, il n'y a aucun problème. Là où pour moi, j'estime que c'était problématique, entre guillemets, c'est que j'aimais pas ce que je faisais et du coup je me plaignais beaucoup, je ruminais beaucoup et je mettais pas de l'amour dans mon métier.
Donc ce serait presque un raccourci ou peut-être qu'on peut le dire quand même, quand on aime ce qu'on fait, finalement on n'a jamais vraiment l'impression de travailler.
Exactement, il y a une phrase qui dit, je sais plus de qui c'est, si tu aimes ton métier, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Et je pense que, ouais, c'est le Graal, quoi, c'est magnifique quand ça arrive et... Quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler et puis on le fait pas pour, on le fait pour l'amour de ce qu'on fait. En fait, on n'attend rien en conséquence. Parfois, on est flatté s'il y a des conséquences, mais on le fait pas pour ça, en fait. On le fait pour... Ça nous suffit.
Donc, dans ce changement de vie, dans ce virage, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que voilà, tu parlais de métier, hein, d'aimer faire, de créer sa réalité, d'aimer faire ce qu'on fait et donc ne plus avoir l'impression de travailler. Souvent, on rentre dans une case, mais là, quand on veut être résilient et l'auteur de sa propre existence, de sa propre vie, il s'agit des fois de créer de nouvelles cases. Donc, à l'aube de tes 30 ans, tu fais le choix de quitter le système bancaire et tu te lances dans ce chemin initiatique, donc Compostelle. On a tous entendu parler de Saint-Jacques, de Compostelle. Compostelle. Toi, tu fais le choix de partir de chez toi, donc de Strasbourg, pour aller jusqu'à Compostelle, mais sans réellement savoir si tu allais arriver jusqu'à Compostelle, parce qu'il y a quand même peut-être 3000 km, 2 ou 3000 km, je sais pas trop. Mais parle-moi de ce choix déjà. Tu parlais donc des peurs qui t'ont retenu, mais tu as quand même réussi à acter une fin de contrat pour pouvoir te mettre sur la route et créer cette nouvelle réalité que tu es encore, j'imagine, en train de construire aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Il y a 2300 km entre Strasbourg et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben moi, en fait, à un moment, je sentais que qu'il fallait que je me prenne par la main pour partir de ce système. Ça a été très difficile de partir parce que je crois que quand on est pris dans un système, souvent, on essaye de nous garder dans le système. Il y a tout un... Justement, ça fait émerger beaucoup de peur, moi. Ça... Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, je me suis littéralement prise par la main. J'ai envie de dire avec beaucoup d'amour aussi, mais à un moment je me suis dit ok, si tu prends pas la décision de partir maintenant et si tu fais pas un nouveau pas, si tu te donnes pas une nouvelle chance là dans ta vie à 30 ans, un peu avant 30 ans, tu le feras jamais. En fait, je me visualisais dans 10 ans dans au même bureau, en fait, remplir les mêmes documents Word, Excel, PowerPoint, et je me disais ben cette vie tu peux pas t'imaginer comme ça dans 10 ans. Il y a aucune raison que tu fasses ce pas dans 10 ans plutôt que maintenant. La raison que je me racontais, c'est qu'il fallait que je mette plus d'argent de côté pour préparer l'après. Mais ça, c'est pareil. En réalité, en fait, ça me prenait tellement d'énergie vitale. À un moment, j'avais une boule au ventre quand j'entrais dans l'ascenseur, qu'à un moment, il fallait que je parte. Et donc, à ce moment-là, j'ai acté ce départ. J'ai fixé une date de départ. Je l'ai annoncé à tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé de l'annoncer. J'aimais l'idée de marcher d'un point A à un point B, parce que la marche à pied, moi, m'a toujours fait beaucoup de bien, et je me disais, l'avantage du chemin de Compostelle, c'est que c'est tracé et c'est qu'on sait où on va. Et j'étais déjà assez perdue avec quoi faire de ma vie, que ça me rassurait de me dire, ok, je sais que, bah oui, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, en tout cas, je marche dans la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, même si je sais pas, voilà. Au moins, il y a ça qui est acté. Donc, il y avait un chemin tracé, et ça me plaisait. Donc, je suis partie de la maison où j'ai grandi, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me souviens, c'était le 9 août, le jour de la Saint-Amour. Et à un moment, j'avais une force en moi, je sentais que si je partais pas maintenant, j'allais m'éteindre à petit feu. Donc, c'est une énergie vitale très forte, en fait, à un moment qui prend le dessus, même si c'est difficile, tous les changements de vie. Et je suis partie, voilà, sur ce chemin.
Le chemin qui aura duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que je crois qu'il y a eu peut-être des pauses. L'idée, c'était pas d'aller vite, mais c'était vraiment de prendre le temps de vivre cette expérience et d'intégrer toutes les leçons de vie que tu pouvais avoir sur le chemin. Il y a eu, donc suite à ça, un film, un livre. Donc voilà, je te laisse parole libre, me parler du chemin, de partager ce que tu as envie de partager. Et peut-être à quel moment est-ce que tu as su que tu allais filmer et écrire. Voilà, donc libre à toi de nous emmener sur ce chemin.
Donc ouais, je suis partie avec mon sac à dos, donc là je vois ces paysages pas très loin de les vignes alsaciennes là, en tout cas ça faisait partie des paysages que j'ai traversés. Et au début ça a été difficile ce chemin, j'avais beaucoup idéalisé le chemin de Compostelle. En fait je me disais, si je suis toute seule avec mon sac à dos, que je prends plus le métro pour aller bosser tous les matins, si je suis près de la nature, s'il y a du soleil, s'il y a des belles rencontres, ben forcément ça devrait bien se passer, enfin en tout cas il y a des conditions qui sont réunies pour que ça se passe bien. Et en fait j'ai envie de dire, ouais, j'ai bien idéalisé le chemin et ça a été très difficile au début parce que j'étais toute seule et j'ai traversé voilà, l'Alsace, la Franche-Comté seule avec mon sac, et ça m'a vachement confrontée à la matérialité justement. J'en parle de mon livre à un moment, d'une anecdote d'ailleurs qui s'est passée en Alsace où... je devais rejoindre un gîte et je me suis perdue dans une forêt en pleine nuit parce que je m'y étais mal prise, que j'étais partie trop tard ce matin-là et que je me suis perdue. Et donc je me suis retrouvée dans une forêt en pleine nuit, j'ai aperçu à un moment un serpent, je trébuchais, il y avait des branchages, j'étais pas dans un chemin tracé, enfin c'était l'enfer. Et dans des moments comme ça, on est très confronté justement au matériel, aux éléments, à la nature et à notre nature sauvage. Moi ça m'a amené à des peurs très archaïques du noir, et en fait ça remet un peu les idées en place aussi. Enfin je trouve que de revenir comme ça à des expériences dans la nature et au corps, ça calme aussi un peu le mental à un moment, parce qu'on voit qu'on n'a pas le temps de trop tergiverser, il faut trouver des solutions. Bon, il se trouve que ça s'est bien terminé, cette anecdote-là. Mais il y a eu plein de choses comme ça, une attaque de chien. Enfin, j'ai vraiment eu toute une série d'anecdotes, d'expériences assez confrontantes sur ce chemin. Et donc au fur et à mesure que je marchais, j'ai failli abandonner plein de fois, mais au fur et à mesure que je marchais, quand même ça allait de mieux en mieux. Je sentais qu'il y a quelque chose qui lâchait en moi, que je me délestais, parce que j'avais beaucoup, quand j'ai commencé à marcher, voilà, les mois d'avant avaient été assez difficiles et j'avais un mental à 100 à l'heure, on va dire, qui lâchait de plus en plus, et je rencontrais de plus en plus de pèlerins et j'avais des discussions passionnantes avec eux et je me rendais compte que en fait, il y avait plein de gens comme ça qui avaient tout quitté pour marcher, qui sentaient que le monde allait trop vite. Et des gens qui avaient frôlé le burn-out, qui avaient fait des dépressions, qui étaient en deuil. Et je trouvais ces discussions passionnantes. Et au début, je prévoyais juste d'interviewer des gens et de mettre des vidéos sur ma page YouTube. Et au fur et à mesure de mes pas, j'ai une idée qui a émergé en moi, très forte, de faire un film. Alors que, voilà, moi je suis pas dans l'audiovisuel, mais il y a eu cette idée très forte qui a émergé. Et comme j'étais à ce moment-là, j'avais un mental moins actif, pour une fois j'ai accordé du crédit à cette idée, je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire un film, j'avais envie de donner la parole en fait aux personnes qui sont en chemin, qui sont en quête, parce que c'est ça que je voyais autour de moi, c'est pas anodin de faire le chemin de Compostelle par rapport peut-être à un GR classique, à un chemin de randonnée classique. Sur le chemin de Compostelle souvent il y a cette notion de quête, les gens souvent, il y a quand même une spiritualité au sens large, hein, pas forcément que liée à la religion, mais il y a une spiritualité sur ce chemin, et c'est ça que je voulais montrer dans ce film. Donc je me suis dit ok, je vais faire un film, et en parallèle de ça, en fait j'écrivais dans des carnets ce qui me traversait, et moi ça faisait longtemps que j'écrivais plus du tout, et sur le chemin de Compostelle, le fait d'avoir du temps, je me suis reconnectée à l'écriture, et donc je vivais des émotions parfois douloureuses, et je mettais ça dans mes carnets, j'ai rempli 2-3 carnets entiers, et donc j'écrivais avant tout pour moi, ça me faisait du bien en fait d'extérioriser, je crois vraiment à l'écriture pour calmer le système nerveux quand on n'est pas très bien ou quand on a une situation voilà, qui nous tue. En fait, il y a de la sagesse à laquelle je me contactais en écrivant, et je découvrais des choses en écrivant, et cette connexion à l'écriture a été forte sur le chemin et m'a énormément aidée. Et du coup, j'écrivais, quand j'étais enfant, j'avais des journaux intimes déjà où j'écrivais et je m'adressais comme ça à mon journal intime. Et là, c'est comme si je m'adressais à quelque chose de plus grand que moi quand j'écrivais. Donc il y avait souvent, je déposais des émotions et puis parfois c'était une autre voix à laquelle je me contactais quand j'écrivais. Donc il y a eu ces deux éléments, en fait, il y a eu les interviews et l'écriture. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée quand même jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, même si j'ai failli abandonner plein de fois, il y a eu plein de péripéties. Et là, j'arrive dans la cathédrale et je m'adresse à Saint-Jacques-de-Compostelle en mode ok, j'ai marché 4 mois, c'est quoi la prochaine étape ? Et là, ça va paraître complètement perché ce que je vais dire, pour autant c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une sorte de demande de voilà, c'est quoi, voilà, qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Et j'ai senti un murmure qui me disait fais ton film. Et en fait, il y a eu l'instant d'après, je me suis dit ok, bon, on va le faire quoi. À ce moment-là, j'avais pris des vidéos, déjà j'avais des rushs, j'avais même rencontré un pèlerin qui m'a filmé en marchant et ça m'a beaucoup aidée parce qu'il filmait super bien, donc j'ai eu des images grâce à lui pour le film. Je suis rentrée, on était en janvier 2018, j'ai passé un peu de temps à droite à gauche chez différents amis et j'ai commencé à faire le montage de mon film. Qu'aujourd'hui le film est disponible en DVD, en VOD, puis j'organise toujours des projections physiques, des e-projections aussi en ligne. Donc le film, voilà, Chemin de vie, marcher vers son essentiel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais terminé la version longue de mon film, donc à ce moment-là, en parallèle, voilà, ce que je dois préciser aussi, c'est que j'avais repris des études de psychologie aussi, je continuais d'étudier la psychologie. Donc parce que je suis passionnée de l'humain et que après avoir été beaucoup dans les chiffres, j'avais ce besoin de comprendre comment fonctionnait l'humain, je sentais cet appel d'étudier la psycho, et je trouve un job en tant que psychologue, mais il y avait cet appel très fort, j'ai senti qu'il y avait un livre qui devait s'écrire. Et ce qui se passait, c'est que ça faisait à ce moment-là déjà 2 ans que je partageais sur les réseaux sociaux des textes, des anecdotes du chemin, toute cette sagesse à laquelle je m'étais connectée. Je la mettais au service, enfin je la reconstituais sous forme de texte où je parlais d'une anecdote qui m'arrivait et d'un dénouement qui se passait en fait. Un moment où t'es pris dans tes émotions, où il n'y a aucune issue, où ça va pas du tout, et bam, tu rencontres quelqu'un qui te dit quelque chose et là ça se débloque en toi. Et donc mon but c'était de me dire si mes textes ils m'ont inspiré moi-même, j'ai envie qu'ils inspirent d'autres personnes. Et je parlais aussi des gens qui m'ont inspiré, bien sûr, parce que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont inspiré, donc l'idée c'est que ça inspire d'autres. Et on me demandait depuis 2 ans, alors il est où votre livre? Parce qu'il y a des gens qui croyaient que c'était des extraits d'un livre en fait, les textes que j'écrivais. Et donc ça aussi ça m'a boostée. Et donc j'ai eu cet appel du livre. Et encore une fois, j'ai appris ces dernières années à écouter mes idées, mes appels, quand je sens que c'est un appel du cœur d'y aller. Même si à ce moment-là, voilà, j'avais ma raison me disait peut-être trouve un job en tant que psychologue. Mais à ce moment-là, j'avais cet appel plus fort d'écrire. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc j'ai passé... en fait, je me suis pris 3 mois. Et pendant 3 mois, je me suis fixé l'objectif tous les matins d'écrire au moins 2 heures avant d'allumer mon téléphone portable. C'était ça ma discipline. Dans les faits, c'était plutôt 4-5 heures. Et donc, j'écrivais, je me reconnectais à mes émotions du chemin. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais rentrée, donc ça faisait déjà quelques temps. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais une crédentiale, donc un passeport de pèlerin avec les endroits où j'avais été. Et donc, je faisais des recherches sur des gîtes comme ça. Je revoyais des photos et bam, ça me replongeait dans le moment et j'avais des anecdotes qui revenaient. Donc, ça m'a aidée à reconstituer en fait cette expérience. Et j'écrivais avec celle que j'étais à ce moment-là, donc avec un certain recul. Et je pense que quand on écrit avec un certain recul sur des événements, ça donne pas le même livre. J'étais un peu plus détachée des situations, je pouvais les analyser, faire des liens entre des choses qui arrivaient. Et donc le livre s'est écrit comme ça et voilà, il s'appelle Marcher vers son essentiel.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as dit beaucoup de choses dans ce qu'on vient de partager. Donc pour résumer un peu, Pauline, tu fais le choix de remettre ce sens, on parlait de sens, voire du bon sens, dans ta vie. Tu choisis de quitter ton boulot en tant que salarié, donc affronter ses peurs dans un premier temps. Tu fais le choix de tout quitter avec cette peur qui est la peur économique, hein, tu disais, hein, peur du manque. Tu te lances sur le chemin de Compostelle et dans ce que tu viens de me raconter, donc tu as parlé de ton bouquin, tu as parlé de ton film, mais j'entends aussi un voyage intérieur, hein, plein de choses qui se passent en soi que tu as voulu partager avec ces différents outils et tu as essayé de créer aussi cette réalité qui est la réalité du monde du travail. Tu quittes un monde du travail pour finalement tout ce que tu réalises aujourd'hui, c'est aussi du boulot. Donc tu essaies de recréer un cadre et un modèle économique. J'aimerais que tu me parles de cette aventure-là pour quelqu'un qui a eu peur de lâcher un emploi en tant que salarié. Comment est-ce qu'on reconstruit derrière un modèle économique?
Oui, tout à fait. C'est hyper important cette question. On me la pose à chaque projection du film, en fait. Concrètement, comment vous gagnez votre vie? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Parce que c'est bien beau de toute cette voilà, de changer de vie, d'aller voyager, mais après concrètement, voilà, c'est une vraie question. Donc moi, j'ai eu la chance, je dois l'avouer déjà. On va pas se le cacher. Comme j'ai travaillé 7 ans dans le secteur bancaire, j'ai mis un peu d'argent de côté quand même. Donc ça aide. On va pas, voilà, je le dis concrètement. Moi, ça m'a toujours aidé de regarder combien j'ai sur mon compte en banque à ma disposition pour me rassurer dans certains choix, notamment quand j'ai voulu écrire mon livre. Je me disais, ok, t'as tant sur ton compte, bon ben, ok, tu peux y aller. T'es encore soutenu. Après, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. J'ai le statut d'auto-entrepreneur. Je gagne de l'argent avec mes activités. En fait, c'est tout un modèle qui s'est construit depuis 4-5 ans. C'est tout un modèle qui s'est construit et qui est toujours en train de se construire. Ce qui m'arrive parfois, c'est que je vais aider des gens qui ont des projets similaires aux miens. Par exemple, là...
Je vais pas te demander de tout détailler, tout chiffrer, parce que c'est vrai que quand on commence à se lancer en tant qu'indépendant, il faut semer des graines dans toutes les directions et certaines germent, d'autres pas. Mais le terrain sur lequel je voulais t'emmener, c'est aussi cette notion de quand on part, quand on voyage, eh ben on se retrouve avec son sac. Je crois que la phrase sur Compostelle, c'est le poids de ton sac, c'est le poids de tes peurs. Et on se rend compte que finalement, plus son sac est léger, plus on se sent libre. Et on prend aussi conscience que les besoins matériels sont souvent très illusoires. Donc c'est aussi ça, peut-être l'enjeu, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'autant pour être bien.
Totalement. C'est vrai que moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de réduire un peu mes besoins et de me poser la question de, au fond, j'ai vraiment besoin de quoi, en fait? Parce que plus on a de besoins et de peurs, c'est sûr. Après, je ne vais pas le cacher, je suis encore en chemin. Après, moi, ce qui m'aide par rapport aux peurs, c'est toujours de revenir à des choses très, très concrètes, de me dire, ok, au pire, il se passe quoi si demain t'as plus... Par exemple, il se passe quoi demain si t'as plus d'argent sur ton compte en banque? Parce que moi, c'était ça ma peur. Parce que pour moi, l'argent rime avec liberté. J'associe l'argent et la liberté. Et moi, ce qui m'a aidé, par exemple, sur cette question-là, c'est de me souvenir que j'avais passé quand même plusieurs semaines en Inde dans une famille de non-bouddhistes qui m'avait gentiment dit, si tu veux, tu peux venir passer du temps à nos côtés. Ça aide de se dire ça. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, ça ne veut pas dire que c'est la vie idéale, mais ça m'aide de me dire ça. C'est qu'en fait, je sais qu'au fond, je pourrais être heureuse dans un monastère pendant plusieurs mois, le temps de me recréer autre chose, et que cette vie-là, elle est parfaitement OK, en fait. C'est vrai, cette vie de simplicité.
Mais j'ai quand même envie, pour terminer cette émission, que tu me parles, pour toi, des grands enseignements que tu as pu avoir sur le chemin ou dans ce travail que tu as fait d'écriture ou de réalisation. Voilà, les leçons de vie que tu aurais envie de partager depuis que tu as fait le choix de quitter ton boulot.
Alors pour moi, la première grande leçon qui me vient, qui est appliquée au chemin de Compostelle et aussi clairement à la réalisation de mon film et de l'écriture de mon livre, c'est cette notion de petits pas. C'est que moi, quand je me suis lancée sur le chemin de Compostelle, je pensais vraiment pas que j'irais au bout. Mais ce qui m'a aidée, c'est de me concentrer sur les petits pas quotidiens. Donc quand tu prends 2000 km, si tu le divises en nombre de jours, si par exemple t'as 3 mois, 1000 km, enfin bref, tu divises en nombre de jours, ça te fait un kilométrage par jour. Et moi, ça faisait à peu près 20 km par jour, 10 km par demi-journée. Et là, tu commences à te dire, ok, c'est faisable en fait, 3 km par heure. Et tu dis, bah ouais, en fait, et même si je saute une journée, c'est pas grave. Ça va un tout petit peu décaler, mais en fait, je vais y arriver. Et pour moi, c'est exactement... Ça, pour moi, c'est un enseignement hyper fort. C'est de... Dans n'importe quel projet, en fait, au lieu de regarder le sommet de la montagne et de se dire, waouh, je vais être réalisatrice de film ou je vais être écrivain, c'est de se dire, quel petit pas je peux faire aujourd'hui vers ça. Et quand j'ai écrit mon livre... Moi, le premier, enfin, clairement, un petit pas, et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui veulent écrire un livre, c'est écris chaque matin quand tu te réveilles, t'écris au moins une petite demi-heure. T'écris tout ce qui te traverse, quoi, les pages du matin. Parfois, ça va être magnifique, parfois, t'auras zéro inspiration, mais t'écris. Et en fait, en écrivant comme ça tous les jours, ben, au bout d'un moment, oui, il y aura un livre. Et ça, pour moi, c'est vraiment clé, quoi, cet enseignement de pas trop se concentrer sur le sommet de la montagne, parce que notre mental voudra toujours connaître la fin de l'histoire et voudra toujours se projeter sur le produit fini. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est chaque jour, en fait, quels sont les petits pas qu'on fait. Et au final, une fois qu'on arrive à ce fameux sommet de la montagne, ben, on se rend compte que, ben, on est content, mais bon, on se pose la question du prochain objectif. Et du coup, c'est pas un bonheur. Faut pas trop se raccrocher, en fait, à l'objectif final, quoi. Là, mon livre est sorti il y a peu de temps. J'étais hyper heureuse de le voir en librairie, mais bon, voilà, c'est très joyeux, mais en fait ce qui compte, c'est la joie que j'ai eu à l'écrire, en fait, au quotidien. C'est pas qu'il soit sorti en librairie. Donc ça, un grand enseignement. Peut-être pour apporter un autre enseignement qui moi m'a aidé, qui est lié à ça, c'est il y a une phrase, en fait, qu'on m'a dit sur le chemin, qui a beaucoup résonné en moi, qui est: le pèlerin est celui qui pèle ses peaux comme on pèle un oignon jusqu'au cœur. C'est une phrase qui m'a beaucoup accompagnée sur mon propre chemin et qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Parfois, on croit dans nos vies qu'on doit ajouter des choses, qu'on doit faire plus de choses, alors que parfois, il s'agit au contraire d'enlever des choses, d'enlever des couches de peau, d'enlever des croyances sur soi pour se rapprocher de qui on est vraiment. Et je crois que je suis toujours sur ce chemin, en fait, de devenir qui je suis. Cette phrase de Nietzsche qui dit « deviens qui tu es ». Je pense qu'au fond, j'ai toujours su, il y a toujours eu cette connexion à mon cœur et à qui je suis au fond du fond, à mon essentiel. Mais en fait, c'était comme voilé par différentes couches de croyances sur ce que je pensais que je devais être, sur « ok, je vais faire plaisir à un tel et je vais faire ça ». Et à un moment, ben, on commence à enlever toutes ces couches et à se dire, bah, en fait, est-ce que tu as vraiment envie de ça, ce que tu vas faire là? Comment est-ce qu'on peut faire de la place, en fait, dans son quotidien? Et je pense que pour marcher vers soi, vers son essentiel, une des premières étapes, c'est d'enlever ce qui n'est pas soi. Donc, regarder son agenda et de se dire, ok, est-ce que ce qui est prévu là dans ces prochaines semaines, j'ai vraiment envie de le faire? Qu'est-ce que je peux enlever pour laisser de la place? Pour laisser de la place à la joie pour qu'elle émerge et au vrai soi de se révéler en fait. Et ça, j'en parle parce que c'est tellement facile de remplir son agenda. Moi, j'ai beaucoup couru à travers ma to-do list, surtout quand je travaillais dans le secteur bancaire où j'avais aucun temps avec moi-même. Et en partant sur le chemin, le fait d'avoir du temps, ça a laissé de la place et c'est ça qui m'a reconnecté à l'écriture et à ma créativité. Et donc voilà, cet enseignement, c'est vraiment de laisser de la place et d'enlever les couches de peau comme le fait le pèlerin. Voilà.
Pauline, si tu devais me raconter le chemin, c'est quoi en quelques mots?
Je dirais le chemin de Compostelle, c'est des gens qui marchent avec leur sac à dos en direction de la sépulture d'un apôtre de Jésus-Christ. Voilà, qui est mort il y a 2000 ans. Mais en fait, c'est même pas très important qu'il marche vers cet endroit-là. En tout cas, il marche parce qu'ils se posent des questions et ils sont en quête et ils ont envie de voir ce que la vie a à leur proposer. C'est des gens qui laissent de la place entre un point A et un point B pour laisser la vie leur proposer des choses. Donc, ils marchent et il se passe des choses. Et ils rencontrent des gens et ils ont des prises de conscience. Et ils continuent. Grâce à cette prise de conscience, ils avancent. Ça rectifie leur trajectoire et ils continuent de marcher.
La phrase, tu parlais de montagne, et ça me fait penser à la phrase de Mandela, je crois. C'est lorsqu'on arrive au sommet d'une montagne qu'on se rend compte qu'il reste encore beaucoup d'autres montagnes à franchir.
C'est exactement ça, Alexandre. Moi, je l'ai vu à chaque fois que j'ai cru que j'étais arrivée quelque part. C'est souvent un peu décevant, en fait, le sommet de la montagne, parce qu'on a idéalisé ce que ça pouvait être. On se dit, le jour où j'aurais fait ça, je serais enfin heureuse. Et en fait, on se rend compte que ça s'arrête jamais. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de bonheur permanent, qu'en fait, il est à recréer chaque jour. Et peut-être même qu'à un moment, on apprend à se détacher même de cette notion même du bonheur. On ne cherche plus à être heureux, on cherche peut-être à être vivant. Et c'est ça, peut-être, qui compte le plus, c'est à rester dans la vie et dans le mouvement.
Pauline, merci à toi. Le livre et le film s'appellent « Marcher vers son essentiel ». Un voyage intérieur sur le chemin de Compostelle. Merci Pauline.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous.